Chapitre 81. Je ne sais si tu es en moi, ou si je suis en toi, ou si tu m'appartiens. Je pense que nous sommes tous les deux à l'intérieur d'un autre être que nous avons créé et qui s'appelle nous. Gabriel Prudent n'aimait pas les choix de sa femme. Il s'endormait systématiquement devant les films qu'elle louait aux Vidéos Futures, le temple des cassettes vidéo qui faisait l'angle de leur rue. Elle empruntait toujours des comédies romantiques. Gabriel préférait « L'aventure, c'est l'aventure » de Claude Lelouch, dont il connaissait les dialogues par cœur, ou Belmondo et Gabin dans « Un singe en hiver ». À part Robert De Niro, dans l'ensemble, les ricains ne l'emballaient guère. Mais il ne contrariait jamais Karine. Et puis, il aimait ce rituel du dimanche soir, assis sur le canapé, collé contre son épouse, les yeux fermés dans sa chaleur, son parfum épicé. Les dialogues en anglais s'étouffaient peu à peu. En s'endormant, il imaginait de beaux acteurs au brushing impeccable se rencontrer, se déchirer, se séparer, se recroiser au coin d'une rue pour finir par s'embrasser et s'enlacer. Karine le réveillait doucement pendant le générique de fin, les yeux rougis par le mélo cinématographique, et lui disait, amusé et agacé à la fois, « Mon amour, tu t'es encore endormi ?» Il se levait, passait par la chambre de l'enfant qui grandissait trop vite, la regardait, émerveillée, puis faisait l'amour avant que lui ne reparte le lundi matin dans des tribunaux où l'attendaient des accusés qui clamaient leur innocence. Ce soir de 1997, Gabriel ne s'endormit pas. Dès que Karine enfonça la cassette dans le magnétoscope, que les premières images apparurent, il fut happé par l'histoire, comme dévoré. Il ne vit pas un homme et une femme extraordinaires jouer la comédie, mais vivre leur coup de foudre sous ses yeux, comme si lui, Gabriel, en était le témoin privilégié, comme devant tous ces inconnus qui défilaient à la barre, qui l'interrogeaient à charge ou à décharge. Il sentit le regard silencieux de Karine se poser sur lui à maintes reprises, inquiète qu'il n'ait pas plongé dans un sommeil abyssal. Et quand, dans les dernières minutes du film, l'héroïne, assise aux côtés de son mari, n'ouvrit pas la portière de sa voiture pour rejoindre celle où l'attendait son amant, que ce dernier mit son clignotant pour partir à jamais, Gabriel sentit peu à peu le barrage émotionnel qu'il avait érigé depuis 4 ans pour oublier Irène cédée sous la pression d'une tempête, d'un cyclone, d'une catastrophe naturelle. Il sentit la pluie des dernières images du film couler sur lui. Il se revit, au retour du Cap d'Antibes, attendant Irène dans sa voiture. « Je reviens dans 5 minutes, le temps de déposer les clés de l'utilitaire. » Il l'avait attendu des heures, les mains crispées sur le volant. Les premières minutes, derrière son pare-brise, il avait imaginé ce que serait la vie aux côtés d'Irène. Il avait rêvé un avenir où ils seraient deux. Puis l'attente s'était éternisée. Il avait fini par lâcher le volant. Il était descendu de sa voiture pour entrer dans la roseraie. Il était tombé sur une vendeuse qui n'avait pas vu Irène depuis quelques jours. Il l'avait cherchée dans les rues, au hasard, désespérément, refusant de comprendre qu'elle ne reviendrait pas, qu'elle avait fait le choix de rester dans sa vie, qu'elle n'en changerait pas pour lui. Sans doute par amour pour son mari et son fils, à son corps défendant. Voilà une expression qu'il avait souvent entendue pendant les procès. Il était remonté dans sa voiture et devant son pare-brise, dans les phares, il avait vu la nuit et rien d'autre. Et puis un matin, à l'étude, on lui avait dit qu'Irène Fayol avait sollicité un rendez-vous. Il avait d'abord bêtement pensé à une homonyme. Et quand il avait vu le numéro de téléphone qu'il connaissait par cœur, le numéro de la roseraie qu'il n'avait jamais osé composer, il avait su que c'était elle. Il y avait eu Sedan, d'autres hôtels, d'autres villes pendant 1 an. Et puis la maladie de Paul et la naissance de Chloé. D'un côté la maladie, de l'autre l'espoir. Sans nouvelles d'Irène depuis plus de 4 ans. Qu'était-elle devenue? Comment allait-elle? Paul, s'en était-il sorti? Vivait-elle toujours à Marseille? Possédait-elle toujours sa roseraie? Il se rappelait son sourire, son allure, son odeur, sa peau, ses taches de rousseur, son corps, ses cheveux qu'il avait tant aimé décoiffer, Avec elle, ça n'avait jamais été comme avec les autres. Avec elle, ça avait été mieux. Devant la scène finale du film, quand les enfants dispersèrent les cendres de leur mère sur un pont, Gabrielle pleura. Dans le monde de Gabrielle, les hommes ne pleuraient pas. Même au moment des verdicts les plus fous, les plus inattendus, les plus improbables, les plus heureux, les plus désespérés. La dernière fois qu'il avait pleuré, il devait avoir 8 ans. On lui avait recousu une blessure à la tête sans anesthésie après une chute de vélo. Karine, elle, ne pleura pas. En temps normal, devant un tel mélodrame, elle aurait dû tordre son mouchoir, mais l'attention que Gabrielle avait portée au film l'empêcha de ressentir quoi que ce soit d'autre que la peur. Elle se rappela Irène dans la roseraie. La finesse de ses mains, la couleur de ses cheveux, sa peau claire, son parfum. Elle se rappela le matin où elle lui avait tendu la carte d'identité de Gabrielle pour lui signifier qu'elle existait et qu'elle était enceinte. Karine avait découvert l'existence d'Irène quand l'étude de Gabrielle lui avait laissé un message. Le concierge de l'Hôtel des Loges à Lyon souhaitait lui retourner des affaires que Gabrielle avait oubliées au cours de son récent passage. La semaine précédente, son avocat de mari avait plaidé aux assises de Lyon. Karine avait rappelé l'hôtel, parlé au concierge, lui avait donné son adresse personnelle et avait reçu, 2 jours plus tard, un colis contenant 2 chemisiers en soie blanche, un foulard Hermès et une brosse où quelques longs cheveux blonds s'étaient accrochés. Karine avait d'abord pensé qu'il s'agissait d'une erreur, puis elle s'était rappelé Gabrielle. Son air sombre quand il était rentré de Lyon alors qu'il avait gagné son procès en appel. Elle avait cru qu'il était malade, il avait mauvaise mine. Elle le lui avait fait remarquer, il avait balayé l'air d'un geste de la main et avait répondu d'un sourire là qu'il était juste très fatigué. La nuit suivante, Gabrielle avait appelé plusieurs fois quelqu'un dans son sommeil, Reine. Le lendemain matin, Karine le lui avait fait remarquer. « Qui est Reine ?» Gabrielle avait rougi, le nez dans sa tasse de café. « Reine ? Tu as prononcé ce prénom toute la nuit. » Gabrielle avait ri, de ce rire qu'elle aimait tant, un rire tonitruant, et avait répondu « C'est la femme de l'accusé. Quand elle a compris que son mari était acquitté, elle est tombée dans les pommes. » Mauvaise pioche. Karine connaissait l'affaire. Il s'agissait de celle de Cédric Piollet, dont la femme se prénommait Jeanne. Mais elle n'avait pas scié. On peut changer de prénom ou en avoir 2. Plusieurs nuits, Gabrielle avait continué à appeler Reine dans son sommeil. Karine avait mis cela sur le compte du travail, de la pression. Son mari acceptait trop d'affaires. Quand Karine avait rencontré Gabrielle, il était veuf et séparé de sa dernière compagne. Quand elle lui avait demandé s'il y avait quelqu'un dans sa vie, il avait répondu « de temps en temps ». En tenant les 2 chemisiers de soie qui sentaient l'or bleu, elle s'était rappelé cela. Karine avait jeté les vêtements et le foulard parfumé de Guerlain ainsi que la brosse à cheveux à la poubelle. Ces choses n'appartenaient pas à une putain de passage. C'était beaucoup plus grave. Depuis plusieurs mois, Gabrielle avait changé. Quand il rentrait à la maison, il avait l'air ailleurs. Il était absorbé par quelque chose, comme tourmenté. Karine avait remarqué qu'il buvait plus de vin à table. Quand elle le lui avait fait remarquer, Gabrielle avait cité Audiard. « Si quelque chose devait me manquer, ce ne serait pas le vin, ce serait l'ivresse. » Il y avait une autre femme dans les mensonges de Gabrielle. Il n'avait pas été compliqué de retrouver le numéro qui apparaissait régulièrement sur les dernières factures détaillées de téléphone. Le même numéro sortant les semaines où Gabrielle était présent, qu'il restait à l'étude ou travaillait depuis son bureau à la maison. Toujours autour de 9 heures du matin. Des conversations qui dépassaient rarement 2 minutes. Comme pour se souhaiter une bonne journée et raccrocher. Karine l'avait composé à son tour. Une jeune fille avait répondu
« La roseraie, j'écoute. »
Karine avait raccroché. Elle avait rappelé la semaine suivante, était tombée sur la même personne.
« La roseraie, j'écoute. »
« Oui, bonjour. Mes rosiers sont malades. Ils ont de drôles de taches jaunâtres à l'extrémité des pétales. »«
Quelle variété ?»«
Je ne sais pas. » »«
Pouvez-vous passer à la roseraie avec 1 ou 2 boutures ?»
Karine avait rappelé une troisième fois, toujours la même voix.
L'arroserai, j'écoute.
Reine ?
Ne quittez pas, je vous la passe. Qui la demande ?
C'est personnel.
Irène, on vous demande au téléphone.
Karine s'était trompée. Ce n'était pas Reine que Gabriel appelait dans son sommeil, mais Irène. Quelqu'un était venu reprendre le combiné, et cette fois, Karine avait entendu une voix féminine, plus grave, sensuelle.
Allô ?
Irène ?
Oui.
Karine avait raccroché. Ce jour-là, elle avait beaucoup pleuré. Les « de temps en temps » de Gabriel, c'était elle. Pour finir, elle avait rappelé une quatrième et dernière fois.
L'arroserai, j'écoute.
Bonjour, je pourrais avoir votre adresse, s'il vous plaît ?
69 chemin du Mauvais Pas, dans le quartier de la Rose, à Marseille, 7e arrondissement.
Karine éjecta la cassette vidéo et la remit dans sa jaquette. Gabriel était toujours assis sur le canapé, honteux d'avoir pleuré. À son tour, il avait la tête du coupable qu'il passait sa vie à défendre. En rangeant le film dans son sac à main, pour ne pas l'oublier en partant au travail le lendemain matin, elle dit à Gabriel « Il y a 4 ans et demi, quand j'étais enceinte de Chloé, j'ai vu Irène. » Gabriel, pourtant habitué à être confronté en cour d'assises aux affaires les plus complexes et sordides, à toutes les couches de l'humanité, ne sut quoi répondre à sa femme. Il en resta bouche bée. « Je suis allée à Marseille. Je lui ai acheté des roses et des pivoines blanches. Au moment de payer, je me suis présentée. Les fleurs, je ne les ai pas plantées dans notre jardin, je les ai jetées à la mer, comme quand quelqu'un est mort. » Ce soir-là, ils ne passèrent pas par la chambre de l'enfant avant de rejoindre la leur et ne firent pas l'amour. Dans le lit, ils se tournèrent le dos. Elle ne dormit pas du tout. Elle imagina Gabriel, les yeux grands ouverts, ne trouvant pas le sommeil, se remémorant les scènes du film qu'il venait de voir et celles qu'il avait vécues avec Irène. Ils n'abordèrent plus jamais le sujet Irène. Ils se séparèrent quelques mois après ce dimanche-là. Karine regretta longtemps d'avoir loué sur la route de Madison. Et contrairement à Gabriel, elle ne le revit jamais malgré les nombreuses rediffusions à la télévision. Journal d'Irène Fayolle, 20 avril 1997. 1 an que je n'avais pas touché à ce journal, mais je ne parviens pas à m'en séparer. Je le cache au fond d'un tiroir, sous ma lingerie, comme une midinette. Parfois je l'ouvre et je repars quelques heures. Au fond, les souvenirs sont de grandes vacances, des plages privées. On ne tient pas de journal quand on a dépassé un certain âge, et je l'ai dépassé depuis longtemps, mon certain âge. Il faut croire que Gabriel me ramènera toujours à mes 15 ans. Il a perdu beaucoup de cheveux. Il a un peu forci. Son regard est toujours aussi grave, beau, noir, profond. Sa voix caverneuse, unique. Une symphonie, ma préférence. J'ai retrouvé Gabriel dans un café près de la Roseraie. Il m'a laissé commander du thé, sans faire de remarques du genre « c'est une boisson triste » et n'a pas versé de calvados dedans. Je l'ai trouvé plus calme, il paraissait moins tourmenté, moins en colère. Même s'il a toujours été charmant, Gabriel est un homme en colère. Sans doute à cause des accusations des autres qu'il passe sa vie à porter, à réfuter à leur place. Un soir, quand nous étions au Cap d'Antibes, il m'a dit que l'injustice de certains verdicts aurait sa peau, que certaines condamnations le rongeaient jusqu'à l'os. Avant de commander café sur café pour me raconter ses dernières années, sa petite fille, sa grande fille, celle qui est mariée, sa dernière femme, son divorce, son travail, il m'a demandé des nouvelles de Paul et de Julien. Surtout Paul, son cancer, la rémission. Les jours qui avaient suivi la maladie quand il a su qu'il était sauvé. Gabriel m'a dit qu'il me comprenait, qu'il avait arrêté de fumer, qu'il avait vu un film qui l'avait bouleversé, qu'il avait peu de temps, on l'attendait aux assises de Lille le lendemain. Il fallait qu'il prenne un avion, il avait rendez-vous avec ses confrères en fin d'après-midi. C'est la première fois qu'il ne m'a pas demandé de partir avec lui, de l'accompagner. Nous sommes restés une heure ensemble. Les 10 dernières minutes, il a pris mes mains dans les siennes. Et avant de partir, il a fermé les yeux, les a embrassés. J'aimerais qu'on repose ensemble au cimetière. Après cette vie ratée, j'aimerais qu'on réussisse au moins notre mort. Tu es d'accord pour passer l'éternité près de moi ? J'ai répondu oui, sans réfléchir. Tu ne te défileras pas cette fois ? Non, mais vous n'aurez que mes cendres. Même en cendres, je te veux près de moi pour l'éternité. Nos deux noms ensemble, Gabriel Prudent et Irène Fayol, c'est aussi beau que Jacques Prévert et Alexandre Troner. Tu savais que le poète et son décorateur étaient enterrés côte à côte ? Je trouve que c'est génial de se faire enterrer avec son décorateur. Toi, au fond, tu as été ma décoratrice. Tu m'as offert les plus beaux paysages. Tu vas mourir, Gabriel ? Tu es malade ? C'est la première fois que tu me tutoies. Non, je ne vais pas mourir. Enfin, je ne pense pas. C'est pas prévu. C'est à cause du film dont je t'ai parlé tout à l'heure. Il m'a retourné. Il faut que j'y aille. Merci, à bientôt. Irène, je t'aime. Moi aussi, je vous aime, Gabriel. Ça nous fait au moins un point commun.